Popienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. C'est vendredi, c'est podcasty. Comme tous les vendredis désormais, nous consacrons notre Popopop au monde merveilleux et chatoyant des podcasts. Attention, tous les podcasts, pas seulement ceux pourtant nombreux, du groupe Radio France. Nos oreilles sont ouvertes à 360 degrés pour essayer de nous y retrouver dans cet univers qui voit naître chaque jour de nouvelles idées, de nouvelles productions. Car c'est peu dire que l'époque nous sollicite bien plus que le haut Moyen-Âge par exemple, en matière d'images, de sons, de textes, d'infos, et que le monde en général et celui de la pop culture en particulier finissent par ressembler à ces grandes surfaces dont les étals débordent et comme disait Coluche, du choix ne nous laisse plus que l'embarras. Mais Popopop est là, ou plutôt Popopop Podcast, et celui qui arrivera à dire ce titre impossible sans s'y reprendre à trois fois gagnera l'expression de ma plus haute considération. Cette édition a pour titre Cambrioleur, pas de gentleman, Popopop Podcast en ce 10 septembre 2021. C'est parti.
France Inter. Popopop. Antoine de Gaulle.
Bonjour Camille Jusot et bienvenue dans Popopop Podcast.
Bonjour.
Une première question, arrivez-vous à dire le nom de cette émission?
Popopop Podcast.
Encore.
Popopop Podcast.
Ah ben voilà, vous voyez, il suffit de trois essais et c'est transformé. Bien, ici rien n'est simple à dire, vous allez le voir. Et dans ce deuxième numéro, l'homme qui s'appelle Thomas Biaschi le jour et Cosmo Flash la nuit et qui viendra vérifier nos niveaux rapport à ce que nos oreilles ont loupé des podcasts internationaux. Et Charline Roux, qui est mon oreille gauche comme je suis son oreille droite, sans aucune connotation politique, je vous rassure, viendra également tout à l'heure nous rejoindre pour l'interview et nous livrer un compte-rendu de l'actualité pop culture et podcast avec son Popcast. Voici pour le sommaire. Camille Jusot. La Maison Ronde est une maison que vous connaissez bien pour avoir travaillé ici à France Inter en tant que coordinatrice éditoriale. Pourquoi avoir basculé vers le podcast?
Alors, après mon expérience à Radio France, j'ai eu la possibilité de faire une petite expérience dans l'édition, où effectivement j'ai travaillé plus sur les textes et l'écriture. Et je pense que c'est le moment où je me suis réapprochée de la narration, vraiment. Et donc, après ça, j'ai eu envie de rebasculer sur le son, puisque c'est un univers que j'avais adoré. Mmh. Et donc, le podcast, je pense que c'est un endroit, effectivement, où on peut travailler les récits d'une manière assez libre. Il y a des formats qui, en tout cas à l'époque, étaient pas du tout balisés. Il n'y avait pas d'autoroute, donc tout était à inventer. Et donc voilà, c'est pour ça que je me suis lancée dans les podcasts.
Ça ne s'intègre pas forcément dans des collections et des formats déjà existantes, par exemple.
Voilà, exactement. Quand je travaille à France Culture, par exemple, pour le coup, j'aime beaucoup aussi, mais on va s'intégrer sur une émission, une grille. Il y a déjà une ligne éditoriale. Et là, voilà, en podcast, on peut un peu inventer des choses.
On est en freestyle. Dans un instant, nous allons donc nous pencher sur votre tout nouveau podcast L'Insomniaque. C'est le nouveau rendez-vous d'Arte Radio, dans lequel vous vous intéressez chaque deuxième mercredi du mois à ceux qui vivent la nuit. Et pour le premier numéro, vous vous êtes retrouvé face à un délinquant, un cambrioleur. Ça vous fait quoi de vous retrouver face à moi aujourd'hui? C'est moins tendu?
C'est un peu effrayant, mais...
Vous n'avez rien à craindre dans ce studio, je vous promets. Est-ce que je ferais un bon invité de votre podcast? Moi qui me couche, par exemple, tous les soirs à 22h avec une bonne tisane et un ou deux romans.
Mais n'avez-vous jamais un peu veillé, Antoine? J'y crois pas.
Si, mais c'était il y a quelques temps déjà.
Non, mais je pense qu'effectivement... Alors là, le premier épisode est un peu extrême parce que c'est pour aussi rentrer dans une histoire un peu extraordinaire, mais j'aimerais bien qu'il y ait aussi des nuits beaucoup plus douces, entre guillemets. L'idée n'est pas de faire toujours des superlatifs, mais on ira aussi dans les chambres à coucher.
Qu'est-ce que la nuit a de fondamentalement différent pour vous, dans votre travail?
Eh bien, la nuit, c'est un sujet qui m'a intéressée, j'ai voulu aller vers ça pour... Déjà parce que moi j'aime beaucoup la nuit, je trouve que c'est un espace un petit peu hors du temps, il y a un rythme différent, il y a peut-être une lenteur, enfin c'est un contrepoint mais au jour. Et aussi en fait les bruits la nuit sont assez particuliers et différents. J'aime bien cette expression qui dit la nuit l'oreille est un œil. Donc je trouve que quand on fait de la radio, c'est quand même pas mal, et en fait ça se retrouve dans les différents enregistrements que j'ai pu déjà faire, c'est le cas dans l'épisode des gendarmes et du voleur où en fait bizarrement ils parlent beaucoup du son et ça a une importance fondamentale, c'est un repère en fait l'oreille. Donc,
la radio est un œil, mais pas forcément la radio filmée, entre laquelle je m'élève une fois de plus. Ce podcast, l'insomniaque, nous allons en parler dans un instant avec Charline, qui va nous rejoindre. Mais avant ça, j'aimerais vous faire écouter un morceau qui me fait non pas penser à vous, mais à votre podcast. C'est Jacques Dutronc et son gentleman cambrioleur, évidemment, même si le vôtre ne l'est pas. Mais ça, nous allons le découvrir dans un instant.
C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une âme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter.
Jacques Dutronc, gentleman cambrioleur, et c'est sur ce son et par la fenêtre du studio que Charline Roux a décidé de faire son entrée avec sa combinaison noire, sa cagoule et son pied de biche. Bonjour Charline.
Bonjour.
Vous avez laissé tomber votre badge France Inter Parterre, là je sais donc que c'est vous. Vous pouvez retirer votre cagoule, n'hésitez pas.
C'est pas une cagoule, c'est un bas de contention, mais un bas quand même.
Charline, je vous présente Camille Juzot, qui est productrice, autrice, réalisatrice et podcastrice, et elle nous le prouve aujourd'hui avec le nouveau podcast d'Arte Radio, L'insomniaque. Charline, l'insomniaque, c'est bien un podcast tout en ASMR pour s'endormir en écoutant des gens chuchoter dans leur micro tout en appuyant dessus.
Non. Alors non, car non. Ce n'est pas un médicament ni de la médecine douce, c'est un programme qui s'intéresse à une faune particulière, celle des gens qui sont éveillés à l'heure où tout le monde est censé paisiblement ronfler. Est-ce que vous-même, vous êtes une habitante de ce que vous nommez un territoire autonome, c'est-à-dire la nuit?
Bah, moi, la nuit, je m'y sens très bien. Donc, c'était aussi pour ça, voilà, que j'avais envie. J'ai rencontré beaucoup de personnes noctambules ou nocturnes qui m'ont toujours fascinée depuis longtemps. Je pense que c'est pour ça que je suis allée vers ce sujet. Mais moi, la nuit, je dors plutôt bien et un peu partout. Voilà, désolée, mais après, j'aime beaucoup travailler la nuit aussi. Ouais. Donc, bon, c'est quand même un espace dans lequel je pense habiter un peu.
Et est-ce que ce style immersif s'est immédiatement imposé pour la narration ?
Alors ça, c'était une volonté que j'ai eu par rapport à des précédents projets de me rapprocher du présent et donc de me rapprocher de l'immersion du son de reportage. Et c'est un format sur lequel on s'est retrouvé avec le directeur éditorial d'Arte Radio qui avait aussi cette envie là de d'aller plus sur des sons du réel par rapport à, c'est vrai, un environnement de podcast où il y a aussi beaucoup des récits, des choses voilà passionnantes, mais réexplorer un petit peu ce champ du reportage sans perdre l'idée du récit. Voilà. C'est un peu le pari.
Bon, Camille, l'Insomniaque est-il un podcast à conseiller aux insomniaques, dont je fais partie, des insomniaques qui se jetaient avant la création des podcasts sur la chaîne Chasse et Pêche pour essayer de trouver le sommeil, souvenez-vous?
Aux confins du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Haute-Loire, il en est de même de la chasse, des hommes et des sangliers. Entre massifs volcaniques du Cézallier et vallées de la rivière à Lannion, le Pays Coupé est le lieu idéal pour entendre leur appel et pour y répondre. Ici, population en majorité paysanne et faune sauvage, en quelque
Antoine,
sorte
se ressemble. Ah pardon, oui, ben, vous voyez, ça marche toujours.
C'est
très
moins immersif.
Bon, pardon, alors faut-il le conseiller aux insomniaques, votre podcast?
Bah écoutez, bon déjà quand on fait une émission pour Arte, on nous dit souvent « Oh les documentaires animaliers d'Arte, c'est génial !» Donc on est dans le thème. Mais oui, je pense que l'espace, alors c'est du podcast donc ça peut être écouté tout le temps, mais bon je pense quand même que l'espace d'écoute la nuit est particulier et que ce programme il serait vraiment adapté parce que on joue aussi dans le montage sur les silences, la musique et qu'il y a quelque chose... qui peut être assez immersif ou vécu comme un film. Ouais. Après, j'espère que tout le monde s'endormira pas avant la fin.
Le premier numéro, comme il y a l'heure, il y a un certain suspense hein, quand même.
J'espère.
Ah, bah, oui,
c'est pas tellement possible de s'endormir avant d'avoir entendu la fin. Hein.
Ou alors, tant mieux trop. Vérifier les fenêtres et les portes,
ouais, peut-être. Ça, ouais. Peut-être.
Pour le premier numéro, Camille, vous avez suivi un gangster, un vrai cambrioleur. Et j'imagine que ce podcast est plus compliqué à programmer que l'émission C'est mon choix. Comment vous y êtes-vous prise?
Donc j'avais envie effectivement de commencer par ce sujet-là parce que chez Arte Radio il y a une série assez connue qui s'appelle Les Braqueurs qu'on conseille souvent aux personnes qui n'écoutent pas de podcast parce que c'est un récit assez prenant. Ouais. Donc je voyais bien, j'avais très envie de faire le petit frère un peu cracra des Braqueurs et puis aussi parce qu'il y a une
c'est joliment dit.
C'est un peu ça, plus terreux. Et il y a une émission de radio de nuit, puisqu'il y a eu énormément de radio de nuit, qui s'appelle Ligne ouverte de Gonzague Saint-Brie, une archive que j'avais écoutée, où il y a un cambrioleur qui appelle d'un appartement. Et voilà, c'est un moment de réel que j'avais trouvé assez fou. Donc, cette thématique m'intéressait. Alors après, pour le trouver, fouiller.
Quel trésor de diplomatie est-ce qu'il faut déployer pour réussir à convaincre un cambrioleur de parler et de se raconter, que ce soit sa méthode, ses motivations, sa manière de faire les choses, en fait?
Oui. En fait, donc, on cherche, quand on cherche un sujet, moi, après, pour chaque numéro et chaque épisode, on a des envies de départ, et puis on fouille un peu partout, alors beaucoup la PQR, les faits divers passés, les livres, tout. Et donc, en fait, je suis tombée sur quelqu'un qui avait beaucoup exploré ce territoire des marginalités et du vol, et qui a été vraiment mon passeur, en fait, un peu comme on peut avoir un fixeur parfois sur le terrain, et qui, lui, a fait ce travail, d'habitude, effectivement, j'ai au téléphone et je parle avec les gens avant, là c'était pas possible donc je pense qu'il y a eu ce travail, ce pacte de confiance qui s'est fait avec cette personne là qui a pu parler à plusieurs voleurs, en fait j'ai rencontré plusieurs voleurs et donc après il y a eu effectivement notre première rencontre, c'était la toute première fois qu'on s'est rencontrés et là je pense que il m'a testé aussi un petit peu et il y a eu cette question assez rapidement qui est venue, qui je pense était aussi un il fallait que j'aie la bonne réponse, qui était est-ce qu'on va vraiment faire un cambriolage. Suspense.
Est-ce que vous aviez une épingle à cheveux ou pas au moment de la rencontre? C'est une question.
Camille Jusot, pour ce premier numéro de l'Insomniaque, en fait, ça raconte tout votre modus operandi. Vous êtes seul avec votre magnéto et votre micro, en tête à tête avec, là, en l'occurrence, le cambrioleur. C'est pas inquiétant, parfois?
Ça pourrait, mais après, je pense que quand on part pour le travail, il y a quelque chose aussi qui nous protège un petit peu, où on a une mission à accomplir. Voilà, en plus, c'était un premier numéro, donc moi, je voulais aussi bien faire... Et puis en fait, j'avais confiance en la personne qui nous mettait en relation. Ouais. Ça, je pense que c'était voilà, il y a vraiment, je pense, eu un comme ça quelque chose de l'ordre. Ça se passe pour chaque interview de s'apprivoiser, de séduire, de se comprendre comme ça par des gestes avant d'ouvrir les micros. Mais là, ça s'est fait à ce moment-là. Et puis avant qu'on parte. Et que je sois dans un terrain un peu plus inconnu, notamment au cours de l'épisode. Mmh. Lui m'a testé, mais moi aussi, je pense que je le testais et que si je l'avais pas senti, j'y serais pas allée. Mais ça, je pense que, en fait, je me suis dit que c'est très proche du sujet de la nuit, puisque c'est des expériences, je sais pas vous, mais qu'on peut faire aussi dans des nuits, dans des soirées, où parfois on se dit, mais...
Il y a 22 heures, Charline, peut-être.
Je peux rien raconter.
Non plus. L'Insomniac, premier épisode, c'est sur toutes les plateformes depuis mercredi, et celui-ci s'appelle Les gendarmes et le voleur ambiance.
Tu passes à l'acte en général après minuit. Après minuit et même plus tard possible, c'est mieux. Et avant 5 heures. À deux, en général, c'est mieux. Tu travailles mieux. Tu as plusieurs yeux, tu es à l'entraide, et en cas de pépin, à deux, c'est mieux. Après, il y a des moments, il n'y a pas le choix. Il faut y aller à 3, 4, 2 fois 5. Parce que quand il va à 5, c'est que t'as un objectif bien précis. On doit chourer une machine qui pèse lourd, ou j'ai besoin de deux chauffeurs, ou d'un guetteur. Et là, tu prends vite des risques. À 5, ça merde souvent.
Camille Jusot, frôler l'illégalité quand on est la garante de la narration, j'imagine que ça implique de se poser quelques bornes et jalons. Quels étaient les vôtres? Et est-ce que c'était finalement plus inquiétant qu'excitant, ou l'inverse? Il doit y avoir un peu une petite confusion à un moment, j'imagine.
Oui. Effectivement, les limites, c'était de ne pas faire des choses illégales, puisque voilà, on est quand même une chaîne de service public, on peut pas. Je pense qu'on est pris, j'ai été prise en fait par effectivement peut-être l'excitation du récit, et que quand on fait du documentaire, il y a cette chose-là un peu très belle, mais d'être complètement face à un personnage qui se déploie, qui prend de l'aisance et qui, voilà, on voit l'enregistreur tourner et qu'on a de la belle matière ensuite à pouvoir travailler derrière. Et voilà, donc on est nous-mêmes, je pense, en tant qu'auteur, très en immersion. Et donc je me suis laissée complètement prendre là-dedans et emporter. Donc c'était dans une zone périurbaine, donc en voiture, sur des petites routes où j'étais complètement perdue, je savais plus du tout où on était exactement, mais encore une fois, voilà, j'avais confiance aussi en lui. Puis il y a aussi quelque chose où dans le monde de l'illégalité, les frontières sont quand même assez précise, et du coup c'est un cambrioleur, c'est pas forcément quelqu'un qui va aller au-delà du vol d'objets, donc il y avait aucune raison. Puis bon, on est une journaliste d'Arte, ma prod savait que j'étais envoyée, je pense que s'il y avait eu un souci pour moi, c'était plus lui qui était en danger que moi, en fait.
Le cambrioleur explique tellement bien son modus operandi qu'on peut aussi y glaner quelques conseils pour se protéger, nous, dans nos maisons. Par exemple, pas de volet roulant, ça ne sert à rien, vous l'apprendrez en écoutant. Bien placer ses alarmes extérieures, est-ce qu'il se rendait compte, en fait, que, en se livrant lui sur sa manière d'opérer, il donnait aussi quelques petits tips pour être moins sujet à ça?
Oui, oui, il le savait. Il n'était pas complètement naïf après. Je pense que dans le fil de la discussion aussi, il y a cette ambiguïté-là aussi, je pense, qui était intéressante avec sa parole, que en fait c'est une parole qui n'existe pas, puisque en fait la loi du silence dans le milieu du vol est une nécessité pour préserver leur identité, et donc quelqu'un qui ne parlait très rarement de sa pratique, donc je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre dans cette interview où il était aussi content, c'est peut-être pas le mot, mais il y avait quelque chose de l'ordre de la reconnaissance à ce moment-là, d'une manière en fait assez très très calibrée en fait d'agir, puisque ça c'est effectivement, on voit qu'il est très très organisé, qu'il a pensé à tout, et qu'en fait c'est comme ça qu'on survit au monde de la nuit. Et ça, je trouvais que c'était intéressant justement comme point et c'est pour ça que ces paroles rares sont aussi à notre avis intéressantes. C'est que nous, on n'est pas garant de la moralité de l'histoire, et on a essayé un tout petit peu de le baliser avec la narration. En revanche, pour comprendre le monde, c'est aussi des paroles qui nous permettent, plutôt que les préjugés, les avis et les fantasmes, voilà.
Et puis précisons, pour rééquilibrer la balance, hein, si je puis dire, que vous avez suivi en parallèle une équipe de gendarmerie.
Voilà, ça c'était très important justement pour moi-même. Parce que justement, il y avait cette... je savais que ça serait sans doute héroïsé. Aussi, et puis voilà, en plus c'est un bon personnage, donc forcément il y a quelque chose, il a une voix presque un peu caricaturale, et en fait leur présence aux gendarmes, même si eux pouvaient pas, voilà, comme je suis allée vraiment aussi en immersion dans l'institution, je pouvais pas avoir une parole aussi personnelle et aussi engagée que lui, mais ça permet en tout cas avec leur voix de montrer qu'il y a des hommes et des femmes qui sont sur les routes en parallèle de lui pour aussi préserver un peu le sommeil. Ouais, c'est ça.
Camille Jusel, on va continuer à parler de l'insomniaque dans quelques instants, ce podcast absolument passionnant. Mais pour le moment, voici venu l'instant, comme chaque vendredi dans Pop Podcast, pour Charline de nous présenter une sélection de podcasts à glisser entre vos deux oreilles, chastes ou non. C'est l'heure du Popcast. Oui, c'est vrai. J'avais promis un jingle musique, s'il vous plaît. Le Popcast.
Ah ouais, on en est encore là, en fait. Ok. Bon, parfait. À toutes celles et ceux qui se rêvent auteurs et n'osent pas se lancer, voici le guide qu'il vous faut. Le podcast s'appelle En écriture. Dans chaque épisode, la journaliste et autrice Agathe Le Taillandier rencontre, interroge sur le lieu de travail des autrices, des auteurs.
Ils racontent la fabrication de leurs textes et de leur style. Ils décortiquent leurs phrases, la manière dont ils construisent leurs histoires et font des choix. Écrire est un travail. Ça, on me l'a répété à chaque conversation. Et, comme tout travail, il s'apprend. Dans chaque épisode de ce podcast, je serai en compagnie d'invités qui pratiquent l'écriture et la questionnent.
De véritables masterclass auxquelles ont participé Fanny Herrero, scénariste de séries télé, 10% par exemple, le musicien Woodkid, la journaliste Ariane Chemin ou encore la romancière Delphine de Vigan, c'est peu dire que c'est passionnant. Petite précision, cependant c'est un podcast payant, il vous faudra donc souscrire à un abonnement. Tous les renseignements sont à retrouver sur le site de Louis Média.
Il y a un épisode prévu avec Christine Angot ?
Pas encore Antoine, mais vous pouvez toujours le suggérer. Pour vous occuper en attendant cet épisode, hein, j'ai aussi de quoi satisfaire votre âme d'enfant. Un programme baptisé Radio Velpo, point d'exclamation. Un podcast collaboratif fait par et pour les enfants, mais pas que, est-il précisé. Sa créatrice, Suzanne, n'a même pas 10 ans et le programme est né pendant le confinement. Un bon moyen de continuer à communiquer. Et dans Radio Velpo, le podcast, on visite la Tour Montparnasse, on se rend dans un hôtel pour chats, on reçoit Aldebert, Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, ou encore...
Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir l'ancien président de la République française, François Hollande.
Mais enfin, Marie-Thérèse, c'est impossible! Mais madame, je vous jure!
Vous ne me croyez pas? Alors, écoutez ça! Bonjour Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Suzanne, je suis heureux de participer à Radio Velpo.
Connaissez-vous notre émission Monsieur le Président?
J'ai compris que c'était le podcast pas pour les idiots, donc... Je suis forcément concerné, j'espère.
Ah ben ça commence bien.
Radio Velpo, c'est vif, c'est malin, c'est bien illustré. Bref, on a tout à apprendre de Suzanne.
Et pour terminer, vous avez décidé d'abolir la notion de bon et de mauvais goût en matière de musique.
Alors pas moi, mais Raphaël Berlanda-Beauvallet, dont la noble intention se matérialise dans un podcast nommé L'hymne à la daube, dans lequel elle reçoit des artistes qui viennent livrer quelques petites perles considérées comme contestables, comme ici Tim Dup, qui confesse son amour pour Yannick.
Jusqu'à l'eau.
Aucun second degré, mais alors dis-moi d'abord, tout simplement, ce qu'elle a de spécial pour toi cette chanson.
En fait, pour moi, cette chanson, c'est la naissance de la fête. c'est bête, mais tu sais, dans mon processus de construction d'adolescent, c'est une chanson qui était incontournable aux soirées. Et donc, il y a à la fois de la nostalgie et on est vraiment sur du kitsch, quoi.
Et vous pouvez aussi retrouver dans les épisodes précédents les daubes de pommes, de November Ultra ou encore de l'Impératrice. Et vous, Antoine, quelle est la vôtre?
Alors moi, je défends toujours ardemment les Shags, considérés comme le plus mauvais groupe du monde et un des préférés de Frank Zappa.
Oh, the rich people want what the poor people got.
C'est mélodiquement redoutable.
C'est bien, non?
Oui, c'est pas mal. C'est une bien belle daube, monsieur de Cône.
Camille Jusel, nous reprenons notre discussion d'insomniaque dans un instant, juste après un morceau sur lequel certains ont dansé dans leur salon pendant que l'invité de votre podcast vidait leur garage. Ce morceau, c'est Party Like a Human. C'est le nouveau morceau du groupe General Electric.
Inter. Antoine Decaune. Pop.
Et Charline Rau.
Vous écoutez Pop Podcast, la seule émission de radio sur les podcasts que vous pouvez écouter à la radio et en podcast. Et nous sommes toujours en compagnie de Camille Jusot, venue nous présenter son podcast L'Insomniaque, un podcast Arte Radio qui réveille les oreilles. Qui reste éveillé quand tout le monde dort? Qui aime? Qui se perd dans les vestiges de la nuit? Voilà pour le pitch de L'Insomniaque. Dans ce premier numéro, vous suivez donc ce cambrioleur que nous appellerons Jean-Michel, alors qu'il s'appelle José. Mais entre nous, Camille, trouvez pas qu'il a quand même un peu une voix de radio, Jean-Michel?
S'il y a des soupçons qu'il y a des gens et tout, là, c'est à ce moment-là que tu vas avoir le souffle qui va commencer à vouloir sortir plus de ton corps et tout, alors que tu dois pas faire de bruit.
Mm-hmm. Si, incroyable. Incroyable. Quand il a commencé à parler dans le micro, je dis « Ok, cool ». Non, si, c'était... Et puis voilà, puis c'est aussi un peu un acteur, quoi. Et c'est, ça, c'est la chance de la rencontre, mais il s'est complètement pris au jeu. Mm-hmm. Je pense que ça l'a amusé aussi, mais...
Mais c'est ça, mais il y a double enjeu dans votre casting. C'est-à-dire qu'il faut que la personne accepte de vous parler, mais qu'en plus, elle soit suffisamment articulée pour rendre tout le récit intéressant. Là, effectivement, on a presque l'impression d'entendre un acteur.
Mmh. Oui. Et là, c'est normalement des choses qu'on teste avant en ayant les gens au téléphone. Mais là, effectivement, il y a eu la chance de cette rencontre-là. Après, comme voilà, j'avais rencontré plusieurs voleurs. C'est aussi pour ça que ce choix, il s'est positionné sur lui.
Il avait la bonne voix.
Celui qui avait la bonne voix et vraiment l'envie de le faire, quoi. Je crois que c'est vraiment ça qui faisait la différence. Une fois, au début, il avait peur, mais une fois qu'il a lâché les vannes, il était et que on était en confiance, il a joué le jeu.
Alors, en revanche, chose étonnante.
Jean-Michel Cambrioleur n'a pas demandé à ce que sa voix soit transformée. Quelles étaient les autres consignes à fixer avant d'enregistrer le podcast?
Alors effectivement, sur sa voix, en fait, c'était pas forcément une décision qui avait été prise au moment de l'enregistrement. Après, au montage et quand j'ai entendu sa voix, c'est vrai. Et à Arte Radio, en fait, on essaye, il y a une attention sur les voix, par les micros pris, etc. Où c'est hyper dommage de gommer. Et comme c'est du documentaire et qu'il y a beaucoup de montage, en fait, je lui ai proposé qu'au montage, on enlève le maximum de choses qui puissent permettre de l'identifier. Et si lui était d'accord avec ça, qu'on ne modifie pas sa voix. Mmh. Et en fait, voilà, ça lui convenait. Moi, j'ai en fait fait attention. Par exemple, il m'avait parlé, c'était très intéressant, mais de tout, comment il en était venu au vol. Et c'est vrai que là, du coup, on identifiait des groupes, des personnes, des milieux, mmh. etc. Et voilà, donc ça, c'est parti. Et là, on en reste effectivement quelque chose qui est plus de l'ordre du guide pratique. Et du coup, il devient un petit peu un personnage.
Mais de toute façon, sa voix n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus incriminant chez lui, puisque par définition, et comme il l'explique très bien dans le podcast, sa plus grande qualité, c'est d'être extrêmement silencieux. Donc j'imagine qu'il devait y avoir une satisfaction aussi pour lui, à un moment, de pouvoir utiliser sa voix telle qu'elle est.
C'est vrai. Après, je crois que lui, il n'avait pas du tout conscience de... Vous savez, ce truc où les gens disent toujours « Mais j'ai pas du tout une voix de radio et tout. » Donc je crois qu'il n'avait pas conscience qu'il avait une belle voix. Il était un peu flatté, je crois, quand j'ai...
Question technique et pratique. En même temps, il a pas essayé de vous piquer votre matos, par hasard?
Non, pas du tout.
Non. C'est un gentleman, quand même. Bon. Non, ce qui est amusant, c'est qu'au fil du podcast, ce cambrioleur vous livre des tips absolument réels, comme, par exemple, ne pas porter de caouet pendant un cambriolage, parce que la matière fait du bruit. C'est censé être un caouet, me dit notre réalisateur Ghislain Fontana. Alors, il fallait y penser quand même. Qu'avez-vous découvert d'autre sur le monde du cambriolage? On évite les chapeaux à grelots, de transporter des cymbales.
Qu'est-ce qui était le plus troublant? Je pense, en fait, ce qui m'a... C'était là, en fait, à quel point, après le vol, c'était organisé, quoi. Il fallait absolument pas mettre des choses chez lui. Il y avait toute cette question aussi de la revente. Et effectivement, là, on tombe un petit peu au-delà du fantasme du gentleman cambrioleur, sur, en fait, un milieu extrêmement cadré, avec des personnes qui, fonctionnent entre elles, un réseau, quoi. Et ça, du coup, c'était... Ouais, c'était assez troublant de voir tout ça.
Mais ce qui est très troublant aussi, c'est qu'il y a presque quelque chose de poétique dans ce qu'il raconte, de la manière dont il a dû lui-même apprivoiser son corps et les bruits que lui émet, même jusqu'à des choses auxquelles on ne pense pas. Quand on respire dans une maison qui est extrêmement silencieuse, on n'entend que ça.
Complètement.
Et vous entendiez, vous, ces bruits-là, quand vous étiez avec lui, en immersion? Vous y avez prêté plus d'attention?
Bah oui, complètement. Et ce qui est... Donc, c'était mon premier tournage pour ce projet. Et ce qui était troublant à un moment donné au montage, c'est que dans le moment où on est vraiment dehors, devant la maison, je respire hyper fort, quoi. Et donc, on entend mon souffle à moins, mais parce que je pense qu'il me met dans une situation aussi un peu limite. Et du coup, j'étais, oh mon Dieu, mais j'ai foiré ma prise et tout. Alors qu'en fait, non, ça raconte aussi quelque chose d'assez joli. Mais donc, oui, je pense qu'on fait des bruits. Il y a ça. Et puis, il y a aussi la toute première fois où je fermais son coffre de voiture, où moi, je le ferme, genre, normalement, boum, et là, il me fait, mais t'es complètement malade.
Et voilà. Camille, dans le registre confidence, en fouillant, votre cambrioleur vous a avoué être tombé parfois sur des objets inhabituels, comme par exemple des godes sous un lit. Ça veut dire qu'il faut rien laisser traîner chez soi. C'est pas pour moi, c'est pour un ami.
Bah voilà, à vos risques, si vous avez envie de révéler des secrets à des...
Et péril. Très bien. Que pouvez-vous nous divulgacher du deuxième numéro?
Alors, le deuxième numéro, c'est avec... donc, en fait, comme le tournage se passait au moment du déconfinement et de la levée du couvre-feu et de la réouverture des lieux de nuit, des clubs, etc., je me suis dit que ce serait bien, vraiment bien d'enregistrer ça. Donc, c'est dans un club et je suis une femme qui est serveuse dans un club à Marseille. Mmh. Et donc, à travers elle, on rentre dans la boîte de nuit et on voit, voilà, toutes les personnes qui y travaillent et les personnes qui y sortent aussi. Mmh. Donc, on parle de la fête et donc tout le monde comme ça, de créatures aussi, de, voilà, de faire le show et tout. Et ce qui m'a intéressée aussi, c'est qu'elle a une petite fille de 9 ans qu'elle laisse, du coup, les soirs où elle travaille. Et elles ont une relation vraiment forte, toutes les deux. Et donc, voilà, la narration se fait à deux, entre sa fille et elle, entre l'heure de nuit, à elles deux.
Ouais. Ça sera le prochain numéro, donc, dans un mois, au mois d'octobre.
Exactement, au mois d'octobre.
C'est ça. Et juste pour finir sur cette histoire du cambrioleur, Camille Jusot, notre analyseur de voix en régie nous signale que, en fait, la voix du cambrioleur qu'on réécoute là...
S'il y a des soupçons qu'il y a des gens et tout, là, c'est à ce moment-là que tu vas voir le souffle qui va commencer à vouloir...
Ressemblerait beaucoup à celle du comédien qui joue le rebelle.
Il était flic, il faisait du bon travail. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. À hors-la-loi, poursuivons les hors-la-loi.
Mais je n'en tire absolument aucune conséquence, hein, un petit peu hâtive. L'Insomniaque s'est imaginé et réalisé par Camille Jusot, accompagné d'Alice Anne Brassac à la musique et de Samuel Hirsch au mixage. Et c'est à retrouver le deuxième mercredi du mois sur Arte Radio. Pop break dans ce pop-pop-pod spécial podcast, c'est l'heure des pop news spéciales évidemment.
Une mauvaise nouvelle ne venant jamais seule. Lundi, après avoir appris la disparition de Jean-Paul Hérault Belmondo, dans la soirée était annoncée la disparition du comédien Michael K. Williams, l'inénarrable Omar Little de The Wire ou Shalky dans Boardwalk Empire, pour ne citer que quelques grands rôles. Marc Maron est lui aussi comédien et il se trouve qu'il est l'animateur du podcast What the Fuck with Marc Maron. Et pour rendre hommage à son homologue, il a choisi de remettre en avant une interview de Williams qu'il avait interrogé pour la sortie d'un film tristement prémonitoire, une histoire de courtier en pharmacie décidé à faire du business sur le dos de toxicomanes. Et la toxicomanie était un fléau bien connu du regretté Williams et de Marc Maron, qui l'explique en préambule du podcast.
It was intense because we talked openly about our common history with addiction. And Michael talked about the times he relapsed. And if you listen to the conversation, you'll hear him make it very clear when he says, relapse is a part of my story, but I'm living good today.
La rechute fait partie de mon histoire, mais aujourd'hui, ça va. La conversation passionnante entre Marc Maron et Michael K. Williams est à retrouver dans le podcast What the Fuck with Marc Maron. Attention, alerte accent écossais. L'animatrice de ce podcast est née à Édimbourg. Son invitée est canadienne. Les deux sont mondialement connus et pourtant, je vous fais le décryptage juste après.
On today's episode, I have the pleasure of speaking with Alanis about the lead single and tone-setting anthem from Jagged Little Pill, You Ought to Know. I'm Shirley Manson and this is The Jump.
Oui, elle, c'est Shirley Manson, la chanteuse de Garbage, et qu'elle a d'ailleurs un podcast, The Jump, et dans cet épisode, elle discute avec Alanis Morissette de son énorme succès et de la manière dont elle a dû batailler dans une industrie trustée par les messieurs. L'épisode fait un focus tout particulier sur cet hymne un peu guerrier. Et ces quelques secondes de Girl Power vous sont offertes par le podcast The Jump de Shirley Manson.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Yeah, it's me.
C'est Marc Maron.
Marc Maron, yes, ouais. Himself. Thank you very much, Charlene. Camille Jusot, je vois notre Cosmo Flash, notre chroniqueur masqué qui se prépare en régie avant d'écouter ses recommandations. Je vous propose d'écouter un des derniers morceaux de Mead, Let You Speak.
Mead, Let You Speak, cet extrait de l'album Born Loser. Vous écoutez Pop Up Podcast, la seule émission de radio sur les podcasts que vous pouvez écouter à la radio et en podcast. Et ici, depuis désormais 2 semaines, vit dans la cave de Pop Up Pop un individu qui ne se nourrit que de pizza, un peu comme les tortues ninja, et qui passe le plus clair de son temps à écouter des podcasts internationaux pour venir nous en parler le vendredi. Son nom, Thomas Biassi, le jour, Cosmo Flash, la nuit. Bonjour Cosmo Flash. La cape et le slip rouge, c'est pour donner de la consistance au personnage, j'imagine.
Bonjour Antoine. Le slip rouge, c'est parce qu'il me restait que ça. Là, je dois faire des machines.
Ouais, donc, okay.
Enfin bon, bref. Cette semaine, j'ai donc écouté le plus mythique des podcasts américains, This American Life.
Ah, hein, et que les Québécois traduiraient par...
Alors, La vie américaine, en français, c'est le podcast de tous les records, diffusé depuis plus de 25 ans. Il est téléchargé par 3,6 millions de personnes chaque semaine. Pour vous décrire rapidement le format, ça oscille entre reportage, documentaire, interview, pièce de théâtre. C'est une vraie anthologie de l'Amérique moderne.
Mais attendez, dites-moi, Cosmo Flash, 25 ans d'existence, ça vaut pas les feux de l'amour quand même.
Ah, clairement pas, hein, mais c'est beaucoup plus original. Par exemple, l'un de mes épisodes préférés raconte un mois de la vie d'une concession de Jeep de Long Island près de New York.
Faites pas ça pour avoir une voiture gratuite comme dans le Burger Quiz, rassurez-moi.
Non, je vous rassure, je me déplace en métro. Hein. Et donc dans cet épisode, la parole est donnée aux différents vendeurs de la concession, tous en compétition pour réaliser exactement 129 ventes mensuelles.
C'est énorme.
Et peut-être mettre la main sur une grosse prime de fin de mois.
All right, in the beginning of the month, I went through the room and I told everybody where they had to be. Jason, you have 16 cars out. You need 10 more for the month for 26. I want to see you there. Bob Linder, you have 6 out. You need 9 more. Scotty, you're at 10 right now. You need to be at 18.
Là, on entend donc le manager à fort accent new-yorkais, je ne sais pas si vous avez remarqué, qui donne les instructions pour le mois à ses commerciaux. Mais cet extrait n'est qu'un exemple, parmi tant d'autres, de la richesse éditoriale de ce podcast. Dans un autre épisode, totalement différent, les producteurs recueillent et racontent les meilleures histoires de coïncidences pas banales de leurs auditeurs.
Je peux participer parce que j'en ai pas mal ici, moi.
Ouais, sûrement Antoine, hein, mais là, c'est une jeune femme qui explique que lors d'un voyage avec son orchestre, elle jette avec son ami Lindsay un petit parachutiste en plastique du haut d'une tour à Seattle.
Et pourquoi ?
Je sais pas. Et quelques années plus tard, toujours en tournée, elle se trouve dans une chambre d'hôtel dans le Nevada avec la même amie et quelque chose atterrit sur leur fenêtre.
On est toutes les deux avec Lindsay dans notre chambre d'hôtel à Reno, dans le Nevada, et tout à coup, le même petit parachutiste atterrit sur le rebord de la fenêtre. On n'en croyait pas nos yeux. On a ouvert la fenêtre, on l'a ramassée et on a couru dans le hall de l'hôtel pour voir s'il y avait d'autres copains de notre orchestre qui nous auraient joué un tour. Mais personne ne comprenait de quoi on parlait. Personne ne se souvenait de ce qu'on avait fait à Seattle. Et encore aujourd'hui, je ne comprends pas comment ça a pu arriver.
Et bravo pour la traduction simultanée, Cosmo Flash.
C'est ça. Et donc cette coïncidence rigolote amorce une série de 6 histoires présentant des coïncidences de plus en plus troublantes de la vie des auditeurs du podcast.
Oh, c'est une bouteille à la mer des airs, quoi.
Ouais, en quelque sorte. Et surtout, c'est vraiment un beau moyen de faire participer ses auditeurs à son émission, en fait. Hein. Mm-hmm. Et enfin, This American Life, c'est aussi des reportages engagés dont la rigueur journalistique est récompensée en 2020.
C'était énorme.
Par le tout premier prix Pulitzer pour un reportage audio.
So let's start today with the US officials on the front lines. His job under Remain in Mexico is to send people back. Lots of them have been resigning, saying, no, that's actually not my job.
Ici, il s'agit donc de l'introduction du premier acte de cet épisode, en immersion, qui confronte le travail de la police aux frontières entre les États-Unis et le Mexique pendant l'ère Trump et les conditions déplorables dans lesquelles vivent les demandeurs d'asile à 2 pas de cette frontière. Voilà, donc celles et ceux qui connaissent déjà le podcast seront sûrement étonnés de m'en entendre parler, puisqu'avant d'être un podcast, c'est d'abord une émission de radio, en fait, qui est vraiment un énorme succès et qui est diffusée sur plus de 500 antennes différentes à travers tous les États-Unis.
Un peu comme nous, quoi.
Ouais, un peu
énorme,
comme nous,
pareil.
Mais malgré tout, l'émission assume un format particulier en plusieurs actes, avec une narratrice ou un narrateur, une ambiance très informelle, sans filtre, s'affranchissant totalement des contraintes habituelles de la radio.
Exactement comme nous, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Elle incarne une façon différente d'aborder la narration en audio et son style en fait invente bien avant l'heure les podcasts d'aujourd'hui. Alors voilà.
La rigueur.
Live, ce n'est pas forcément le podcast le plus pop dont nous parlerons cette saison, mais c'est bien lui qui a fait du podcast un objet pop incontournable.
Bravo et merci Cosmo Flash. Vous pouvez retourner dans votre cave maintenant. Rendez-vous vendredi prochain. Vendredi. Camille Jusot, avant de connaître dans un instant le podcast que vous conseillez, que vous recommandez, laissez-moi vous en recommander un. Vous connaissez désormais ma nouvelle passion pour les podcasts. Vous connaissiez mon amour pour Bruce Springsteen.
Qui ça?
Bruce Springsteen, merci de me permettre de le répéter. Mon admiration pour Barack Obama. Alors pour combiner le tout, je vous propose le podcast Renegades, Born in the USA. C'est un podcast publié il y a quelques mois, mais indispensable si vous ne l'avez pas encore écouté. Il s'agit d'une discussion entre les deux hommes avec des sujets aussi variés que l'Amérique, la paternité, le mariage, leur ville natale, leur modèle ou la masculinité.
How did we get here? That was the topic of so many of my conversations last year. With family, with friends. And one of those friends was Mr. Bruce Springsteen.
The same issues that you struggle with have been issues I've struggled with.
Well, the political comes from the personal.
So we decided to set up a microphone and get into it. It took us to the distance between the American dream and the American reality.
C'est passionnant pour les fans de Bruce, de Monsieur Obama et les autres. Et c'est à retrouver sur Spotify. Et comme quand je parle de Bruce, bah j'ai envie d'écouter du Bruce, je vous propose ce morceau, Stones, cet extrait de son album Western Stars.
I woke up this morning with stones in my mouth. Said those were only the lies you've told me. Those are only the lies you've told me. I pulled my collar to the wind and spit them on the ground. You said those are only the lies you've told me. Those are only the lies you've told me. Sat on the edge of our bed in the sun. I felt them gather on my tongue. I woke up this morning with stones in my mouth. You said those. Told me.
Stones, Bruce Springsteen, c'est le dernier morceau de ce deuxième numéro de Pop-Up Podcast en compagnie de Camille Jusot. Camille, je profite de cette émission spéciale pour vous proposer une séquence qui l'est tout autant. Jean-Pierre Foucault avait son coup de fil à un ami, et bien moi j'ai le podcast que l'on conseille à un ami. Ça s'appelle le podcast, évidemment. Bon, jingle. Et nous sommes entre amis, Camille Jusot, à vous de nous conseiller
c'est
un podcast.
C'est une imitation? C'était une imitation.
Un petit peu.
C'est une tentative. D'accord, ok.
Enfin, un podcast, donc allez-y.
Podcast. Alors, moi, j'ai pensé à vous parler de Postscriptum, qui est une émission faite par Alice Milo et Charlie Dupiot. Et c'est une émission de récit aussi, que j'ai trouvé assez intéressante parce que elle est, voilà, il y a des personnages qui sont toujours des récits qui sont très bien choisis, qui il y a à la fois de l'humour, beaucoup de l'émotion parfois, et en fait ça utilise aussi le dispositif sonore pour mettre en relation des gens qui ne se parlent pas. C'est ça le concept de l'émission.
Donc,
voilà, c'est des lettres en fait. Donc va y avoir par exemple un policier avec un jeune de banlieue, va y avoir une émission que j'avais beaucoup aimée entre un donneur et un receveur d'organes. Voilà, entre un élève et un professeur. Et c'est, voilà, c'est très bien fait.
Écoutons voir ce que ça donne.
Je ne suis pas, si je veux, ce qu'on appelle un coureur. Mais dans cette maison de retraite, je suis considéré comme un coureur de jupons. C'est pas ma nature. Si vous voulez, s'il y a une fleur qui arrive et qui me plaît comme une abeille, je me poserai sur elle. Mais je ne courrai pas après la fleur. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça nous est arrivé à tous les deux. On ne s'est pas cherché, mais on s'est trouvé. C'est tout.
Je ne pensais pas tomber amoureuse en venant dans une maison de retraite. Et pour moi, ce n'est pas une fin de vie, c'est un commencement.
Une rencontre dans une maison de retraite, c'est extrait de Postscriptum. Donc ça s'écoute sur toutes les plateformes?
Voilà, les plateformes de podcast et sur leur site internet, j'imagine.
Ok, merci Camille, vous m'avez tout à fait convaincue. Charline ?
Ben oui, mais moi ça m'a hyper émue en fait. Ben,
c'est émouvant.
Non, ouais.
Et puis ça nous permet de ne pas désespérer.
Ouais. Bon. pour nous c'est plié, hein, je vous le dis tout de suite.
Merci Camille Jusot, l'insomniaque. C'est imaginé, réalisé par vous, accompagné d'Alissane Brassac à la musique et de Samuel Hirsch au mixage, et c'est à retrouver le deuxième mercredi du mois sur Arte Radio. Merci Charline Nero.
Je vous amènerai de la soupe quand même, hein, pour rester
avec
ensemble.
Un peu de petits gâteaux de chaboule au principe.
Pas de crouton, en revanche.
Non, jamais de crouton. Ou alors j'ai fait pipi tu avant. Bon, merci à toute l'équipe de Pop 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 et à Sofiane Aktib qui était à la technique aujourd'hui. Lundi dans Pop Pop Pop, ce sera une spéciale Dune que nous vous proposerons avec le réalisateur de ce film tant attendu par la pop culture. Mais avant lundi, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop Pop Pop. Dans un instant, retrouvez Charline Vanhoenacker et toute son équipe pour un nouveau numéro de Par Jupiter.